Aller pratiquer les jhanas. 17 juillet 2004. Il existe de nombreux passages dans le canon où le Bouddha, après avoir expliqué la voie de la pratique ou parlé de l'urgence qu'il y a à suivre la voie, renvoie les moines méditer. « Regardez, dit-il, là-bas il y a des arbres, là-bas il y a des habitations vides. Méditez. Il ne faut pas que plus tard vous regrettiez de ne pas avoir médité, de ne pas avoir pratiqué. » Le mot qu'il utilise pour aller méditer est « aller pratiquer les jhanas ». Le verbe en pali est « jayati ». C'est un homonyme d'un verbe pour brûler, comme lorsqu'une flamme brûle de façon stable. Il existe de nombreux mots différents pour brûler en pali, des mots pour des feux violents, des mots pour des feux qui couvent, mais le verbe pour une combustion stable, comme pour la flamme d'une lampe à huile, est « jayati ». Et le même verbe est utilisé pour pratiquer les jhanas. Lorsque vous pratiquez la concentration, vous essayez de faire en sorte que l'esprit brûle de façon stable, avec une flamme propre et claire. Il est difficile de lire auprès de flammes qui vacillent, mais il est facile de lire auprès d'une flamme stable. C'est là la qualité que vous essayez de développer afin de pouvoir lire l'esprit. Comment créez-vous cette flamme stable? Il faut deux qualités d'esprit fondamentales. L'une est la pensée dirigée, l'autre est l'évaluation. Vous dirigez votre pensée vers un sujet particulier, comme la respiration. Rappelez-vous constamment de rester avec la respiration. Ensuite, vous l'évaluez. Comment se passe la respiration? Où sentez-vous le souffle? Lorsque le souffle pénètre, quelles sont les sensations qui vous permettent de savoir qu'il pénètre? Lorsqu'il ressort, quelles sont les sensations qui vous permettent de savoir qu'il ressort? Ces sensations sont-elles confortables? Si elles le sont, laissez-les comme elles sont. Si elles ne le sont pas, vous pouvez les modifier. Ce que cela signifie, c'est que vous pouvez vous focaliser sur n'importe quel endroit du corps où il vous dit clairement « maintenant le souffle pénètre, maintenant le souffle ressort ». Et remarquez comment vous maintenez cette focalisation. Est-ce un endroit confortable pour rester focalisé? Les sensations elles-mêmes sont-elles des sensations confortables? Comment pouvez-vous agir sur la respiration pour les modifier si elles ne le sont pas? Si elles sont confortables, pouvez-vous les rendre encore plus confortables? Tout ceci fait partie de l'évaluation. C'est ainsi que vous commencez à pratiquer les jhanas. Certaines personnes considèrent ceci comme étant samatha ou la pratique de la tranquillité. Mais le Bouddha lui-même a dit que vous avez besoin de deux qualités afin de pratiquer les jhanas correctement. L'une est samatha ou la tranquillité, l'autre est vipassana ou la vision pénétrante. En d'autres termes, la tranquillité et la vision pénétrante forment ensemble les deux aspects de notre pratique, et le Bouddha nous recommande de les équilibrer. Donc, il ne s'agit pas simplement de pratiquer la tranquillité et ensuite de la laisser tomber pour pratiquer la vision pénétrante. Cependant, beaucoup de gens pensent ainsi, et donc la question suivante revient souvent : de quel degré de tranquillité avez-vous besoin avant de pouvoir pratiquer la vision pénétrante? C'est une question qui n'est jamais traitée dans le canon, parce que les gens ne voyaient pas les choses de cette manière. Ils considéraient la tranquillité et la vision pénétrante comme les deux aspects d'une pratique unique. Les deux aspects sont essentiels. Parfois vous découvrez qu'un aspect se manifeste avant l'autre, parfois ils apparaissent ensemble, mais dans l'idéal, ils se nourrissent l'un l'autre. Si vous avez l'un sans l'autre, vous devez renforcer celui qui fait défaut afin de pouvoir les équilibrer. L'aspect samatha est intimement lié à la pensée dirigée. Comment stabilisez-vous votre pensée dirigée? Comment stabilisez-vous l'esprit? Comment arrivez-vous à l'établir pour avoir plus confiance dans son objet. C'est largement une question de le rendre plus confortable et cependant de maintenir en même temps une attitude d'alerte et de conscience suffisante afin que les choses ne deviennent pas floues. Pour le rendre confortable, vous devez devenir sensible à ce qui se passe en ce moment même. C'est vraiment important. Lorsque vous êtes avec la respiration, essayez d'être aussi directement que possible avec les sensations et remarquez comme elles sont agréables. Est-ce une chose dans laquelle vous pouvez vous établir? Une fois que vous vous êtes établi, comment restez-vous là? Que faites-vous pour maintenir cet état? Ceci, c'est l'évaluation. Et c'est là où le début de la vision pénétrante intervient, car si vous n'avez aucune vision pénétrante, vous commencez à partir à la dérive. La concentration n'est pas simplement une question de force de volonté ou de vous forcer à rester au même endroit. Il faut qu'il y ait également un certain degré de compréhension. Vous la développez en évaluant la respiration, en évaluant votre focalisation, pour voir ce qui a besoin d'être ajusté afin que l'esprit puisse s'établir et rester là, rester là, rester là avec constance, sans s'écarter. Lorsque l'esprit devient plus stable, vous pouvez alors abandonner l'évaluation et simplement laisser l'esprit être un avec l'objet. C'est comme cela qu'il pénètre dans les niveaux plus élevés des jhanas. Mais cela ne signifie pas que vous en avez totalement terminé avec l'évaluation, mais simplement que cela devient plus raffiné. Vous allez devoir continuer à gérer des perturbations, tandis que vous essayez de rendre votre concentration plus ferme et plus continue, tandis que vous essayez de maintenir l'esprit centré à tout moment. Vous mettez l'esprit dans un bon état de concentration ferme, et ensuite, lorsqu'il est établi fermement là, vous prenez du recul pour l'évaluer selon les termes des perturbations subtiles qui continuent à être présentes en lui. C'est là où vos facultés d'évaluation s'attaquent aux questions plus profondes de la vision pénétrante. Comment doit-on considérer les fabrications, ces dérangements qui vont et viennent? Comment doit-on les examiner? Comment doit-on les voir en utilisant la vision pénétrante? De quelle manière doit-on les considérer comme étant stressantes? Lorsqu'une pensée arrive dans l'esprit, pouvez-vous la regarder simplement comme une manifestation de stress, plutôt que de vous impliquer dans le contenu de la pensée? Il y a plusieurs étapes ici. Tout d'abord, voyez que la pensée est inconstante. Elle va et elle vient. C'est une perturbation. Deuxièmement, voyez que cette perturbation est stressante. Maintenez votre analyse simplement à ce niveau, celui du stress qui apparaît, du stress qui disparaît. Ne vous impliquez pas dans le sujet de la pensée. Dites simplement, voilà du stress qui arrive, est-ce que je veux m'impliquer là-dedans? Ben non, c'est du stress. Ça fait qu'il est plus facile d'en rester éloigné, plus facile de conserver l'esprit focalisé, plus facile de vous empêcher de vous impliquer. Lorsque vous voyez que c'est pas soi, vous n'êtes pas obligé de vous impliquer dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier avec. Vous n'êtes pas obligé de l'assumer. Ce qui signifie aussi que vous n'êtes pas obligé de le repousser. Si la pensée est là, laissez-la rester à l'arrière-plan. Plus vite vous la repérez comme étant simplement une manifestation de stress, plus c'est facile de vous dire « je ne suis pas obligé d'aller là ». Lorsque vous devenez plus habile à faire cela, vous lui laissez à peine le temps de se former et de devenir une pensée cohérente. Nous avons tendance, une fois qu'une pensée apparaît, à vouloir la scruter. De quoi s'agit-il? Et si cela semble dénué de sens? Bien, comment puis-je donner un sens à cela? Nous nous impliquons de plus en plus en l'assumant, en en faisant une pensée intelligible, une pensée intelligente, en en faisant une pensée qui vaut la peine d'être pensée. Mais si vous la considérez simplement comme une manifestation de stress et que vous vous en saisissez de plus en plus rapidement, vous la laissez être une pensée stupide et vous la relâchez. La fois d'après, vous la laissez simplement à l'état de pensée à demi formée et vous la relâchez. Vous vous permettez de ne pas être obligé de scruter et de mettre de l'ordre dans tout ce qui pénètre dans l'esprit. Ceci permet de rester plus facilement focalisé. En ce qui concerne la façon d'investiguer ces fabrications, examinez-les en tant que fabrication habile ou malhabile. Ce n'est pas que toutes les pensées soient inutiles. Certaines sont utiles, très utiles, mais en temps et lieu appropriés. Les pensées liées à la respiration sont utiles par rapport à vos buts en ce moment même. Les pensées liées à d'autres choses, ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire demain, sont inutiles. Elles sont malhabiles en ce moment. Parce que nous sommes tellement habitués à penser, si experts à penser, il est habile de nous focaliser en ce moment même sur la façon d'apprendre comment être des experts à ne penser à rien, sauf à la respiration. Donc, pensez à la respiration. Après tout, la respiration est elle-même une fabrication, et une fabrication à laquelle vous voulez vous accrocher. Donc, il ne faut pas penser que lorsque vous voyez combien les choses sont stressantes et inconstantes, vous lâchez prise de tout sur le champ. D'abord, vous devez vous focaliser sur le maintien de celles qui sont habiles et lâcher prise de celles qui sont malhabiles. Si vous éprouvez des difficultés à vous séparer d'un type particulier de pensée malhabile, vous pouvez apprendre à l'analyser, pour voir comment elle conduit à un endroit où vous ne voulez pas vraiment aller. Comme ce chant à propos du corps que nous venons juste de réciter. Il est utile pour le désir dévorant. Lorsque vous vous retrouvez focalisé sur le désir dévorant, rappelez-vous, qu'est-ce exactement que l'objet à propos duquel vous vous excitez tellement? Qu'y a-t-il dedans? Est-ce quelque chose que vous voulez vraiment? Voulez-vous vraiment aller là où le désir dévorant va vous conduire? Si vous appliquez le point de vue de ce chant immédiatement, vous êtes plus enclin à dire « Eh bien, pas vraiment. » Et le désir dévorant se calme. Donc, ce type de pensée est utile. Lorsqu'il a joué son rôle, vous pouvez le laisser de côté. Retournez à la respiration. Donc, les questions qui donnent naissance à la vision pénétrante sont des questions qui, 1. Traitent des manières de ne pas s'identifier avec vos pensées, et ensuite, 2. Puisque vous n'êtes pas obligé de vous identifier à elles, qu'en faites-vous? Vous voyez lorsqu'elles sont utiles et lorsqu'elles ne le sont pas. Elles peuvent vous mener dans des directions où vous voulez aller, ou dans des directions où vous ne voulez pas aller. Vous apprenez à regarder les pensées non comme des sources de contenu, mais comme des éléments d'une chaîne causale. Elles sont importantes, non pas tant pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles font. De cette manière, vous comprenez que même s'il se peut que vous ne vouliez vous identifier avec aucune fabrication, il y a cependant des fabrications qui forment la voie. Ce sont celles-là que vous voulez encourager, parce qu'elles sont habiles. En fin de compte, elles vous mènent au-delà des fabrications. Cela fait partie de la vision pénétrante. Les fabrications qui maintiennent l'esprit calme et stable, qui maintiennent l'esprit engagé dans la poursuite de ce qui est habile, sont celles que vous voulez encourager. Donc, cette pratique de stabiliser l'esprit, de maintenir cette flamme calme, stable, requiert à la fois la tranquillité et la vision pénétrante. Et bien sûr, une fois que l'esprit s'établit, les visions pénétrantes deviennent plus raffinées, la tranquillité devient plus forte. Vue sous cet angle, la pratique des jhanas dépend à la fois de la tranquillité et de la vision pénétrante, et cela crée les conditions pour une tranquillité plus raffinée et des visions pénétrantes plus raffinées, pas à pas. Tout cela va ensemble. Comprenez-les comme des tendances d'esprit ou des qualités différentes d'esprit. Mais faites de votre mieux pour ne pas les voir comme des choses radicalement séparées. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à propos de « quand est-ce que je pratique la vision pénétrante, quand est-ce que je pratique la concentration ?» Tout cela va ensemble. La question devient alors, si vous commencez à remarquer un déséquilibre dans l'esprit, comment le ramenez-vous à un état d'équilibre? Si vous pensez trop, et que cela étouffe votre concentration, abandonnez l'activité de pensée pendant un moment. Si votre concentration devient trop monotone, apprenez à la sonder avec quelques questions. Et en essayant de trouver cet équilibre, vous développez la sensibilité vis-à-vis de l'esprit, qui est la base du discernement. C'est là tout le but de la pratique des jhanas. Il ne s'agit pas de frimer « Eh bien, j'ai le troisième jhana, tu n'as que le deuxième » ou « Je me suis fait les 8 jhanas en seulement 8 jours, et toi ?» Ce n'est pas le but. Le but est de rendre l'esprit suffisamment stable, suffisamment longtemps, afin qu'il puisse voir. Lorsqu'il voit, il peut lâcher prise. Lorsqu'il lâche prise, il est libre. C'est là tout l'objet de cette pratique. C'est ce que le Bouddha voulait dire lorsqu'il a dit « Allez et pratiquez les jhanas ». Cela englobe tous les aspects du développement de l'esprit.